Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Ergun Toparslan, porte-parole de Territoire de Progrès. Bonsoir. Et alors, bienvenue aux auditeurs qui écoutent depuis aujourd'hui Radio Orient DAB+ à Dijon, Avignon, Marseille, Toulon, Cannes et Nice. Première question, Ergun Toparslan. Le week-end dernier, l'aile gauche de la majorité présidentielle s'est réunie en congrès à Bordeaux. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore Territoire de Progrès, quels sont les ministres qui en font partie et de quelle manière votre formation politique a-t-elle marqué le quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Territoire de Progrès, c'est un parti politique qui a été initié, créé il y a maintenant plus de 19 mois par deux ministres, Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt. Pendant au début de sa formation, donc on s'est organisé avec des instances provisoires qui étaient dirigées par Gilles Savary, l'ancien député socialiste et député européen. Territoire de Progrès compte actuellement 8 ministres qui sont membres de Territoire de Progrès, donc Jean-Yves Le Drian, Olivier Dussopt, Elisabeth Borne, Florence Parly, Baptiste Djebbari, Claude Beaune, entre autres, et plus de 35 députés de la majorité présidentielle qui sont également appartenant à Territoire de Progrès. L'idée de ce congrès qui s'est tenu samedi, c'était évidemment un congrès constitutif, c'est-à-dire de pérenniser, de désigner, de voter pour un président et des instances définitives qui nous permettraient de commencer le grand chantier de la maison commune à l'aube des élections présidentielles et législatives de 2022.
Alors, le maire de Dijon, François Rebsamen, qui a été une figure du Parti Socialiste, proche de François Hollande, vous a rejoint. D'autres personnalités de gauche pourraient vous rejoindre dans les semaines qui viennent à l'occasion de la campagne présidentielle?
En fait, il ne nous a pas vraiment rejoint, mais il a fait un message de sympathie lors de notre congrès, c'est-à-dire qu'un jour, il n'est pas adhérent du Territoire de Progrès. Pour autant, la vocation de notre parti politique, c'est tout d'abord de rassembler des hommes et des femmes venus de toute la gauche qui se retrouvent dans la majorité présidentielle et, dans un deuxième temps, ouvrir la majorité présidentielle à d'autres personnalités, d'autres élus, d'autres personnes du monde syndical qui viennent de la gauche, qui gardent leur identité de gauche, mais qui souhaitent la réussite du quinquennat du président et sa réélection pour 2022. C'est toute la vocation, donc évidemment, François Rebsamen, Stéphane Le Foll et toutes les personnes, les militants et les grands élus qui se retrouvent plus dans le fonctionnement actuel, dans les candidatures proposées par les partis traditionnels à gauche, on leur fait une proposition d'une offre de service politique en leur disant la social-démocratie a déménagé, elle est à Territoire de Progrès, et Territoire de Progrès est dans la majorité présidentielle.
Donc Stéphane Le Foll, qui est actuellement candidat pour être le candidat du Parti Socialiste, pourrait vous rejoindre?
Parce qu'on le souhaite, parce que tout d'abord sur les valeurs et sur le fond, il n'y a pas de grande divergence, comme on dirait, il n'y a pas l'espace d'un papier cigarette entre nos idées. Ensuite, sur la stratégie politique, il y a de la divergence du coup, parce que pour nous, la réussite, la vie de la social-démocratie peut se faire uniquement au sein de la majorité présidentielle, avec l'offre de coalition que fait le président de la République Emmanuel Macron. Et Stéphane Le Foll, jusqu'à maintenant, a décidé de faire vivre cette histoire au sein du Parti Socialiste. Et on voit que malheureusement, le Parti Socialiste ne donne pas l'opportunité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire vivre ses idées. Il n'y a qu'à voir des situations assez ubuesques dans lesquelles il se trouve après avoir proposer sa candidature pour la désignation de candidature pour la présidentielle. Honnêtement, une personnalité, un homme fort, un grand maire, un grand ministre comme a été Stéphane Le Foll mérite un peu plus de considération, et les personnes qu'il a derrière lui au sein du Parti Socialiste méritent plus de considération. Et nous, on leur dit, on a déménagé, venez nous rejoindre, faisons vivre la social-démocratie, débattons en interne de la stratégie si vous le souhaitez, mais en tous les cas, venez à Territoire de Progrès.
Parlons un peu du bilan. Quelles ont été pour vous les grandes mesures de gauche, les mesures sociales les plus marquantes du quinquennat d'Emmanuel Macron, Ergun Toparslan?
Bah, tout d'abord, vous savez, nous, mes femmes de gauche, de centre-gauche, on a une importance, on donne une importance assez relative à l'école de la République et le doublement des classes en école primaire. C'est une chose que on souhaitait qu'il se passe dans le quinquennat Hollande, mais qui n'a pas été fait, tout comme le remboursement à 100% des prothèses auditives. Qui ont été faits lors de ce quinquennat, et également une augmentation des primes relatives au niveau de vie de nombreuses personnes en situation de bas revenus. Donc ces éléments font que nous, on pense qu'il y a un vrai bilan. Il y a un vrai bilan social à défendre, des choses qui n'ont pas été faites jusqu'à maintenant et que la majorité présidentielle a pu mettre en place. Est-ce suffisant ? Évidemment que non. On est conscient que la situation sociale, économique et financière de notre pays n'est pas facile. On est conscient que la crise sanitaire a impacté de façon importante les personnes les plus démunies de notre pays, et on souhaite évidemment faire des propositions en ce sens-là pour que la relance économique qui commence dans notre pays, pour que les bons signaux économiques en termes de chômage puissent concerner le maximum de strates de notre population, que chacun puisse bénéficier de cette petite embellie de façon la plus juste, la plus équitable, l'égalité des chances soit au cœur des propositions du candidat sur présidentielle de 2022.
Pour les Français des milieux populaires, la question du logement reste une question très importante. Il est très difficile d'avoir accès à un HLM, même quand on remplit les critères. Arnaud Montebourg propose que l'État achète 1 million de logements vacants qui seraient attribués gratuitement sous certaines conditions. Le logement, c'est l'un des sujets auxquels devra s'attaquer Emmanuel Macron, et vous pouvez contribuer à enrichir son programme sur cette question.
Évidemment, la ministre du Logement actuelle, Emmanuelle Wargon, est membre de Territoires de Progrès de notre parti. Elle a même été désignée présidente de notre Conseil national. Le Conseil national de Territoires de Progrès, c'est l'instance parlementaire interne, on va dire, qui a pour objectif de faire des propositions politiques et programmatiques. Et donc le logement qui est pas un sujet simple, et qui est un sujet qui dépend de plusieurs années de stratégie et de dépeuplement et de construction, a connu un énorme coup de fouet lors de la dernière crise, évidemment. Maintenant, tout le gouvernement œuvre dès maintenant pour construire un maximum de logements. La proposition d'Arnaud Montebourg, elle peut paraître intéressante, mais dans un objectif de pas uniquement numéraire, de construire de façon importante, en grand masse, ou de réhabiliter fortement certains logements. L'idée aussi, c'est de construire des bons logements, des logements durables, des logements qui permettent d'avoir un impact carbone le plus bas possible, des logements bien isolés et qui permettent à chacun d'entre nous de vivre correctement. En plus de cela, les logements sociaux, si c'est pour uniquement parquer les mêmes populations aux mêmes endroits, objectivement, c'est absolument pas la bonne solution, et surtout, on a constaté jusqu'à maintenant que c'est à l'origine de plusieurs difficultés qu'on peut connaître. La mixité sociale est un élément important. On va faire des propositions très fortes dans ce sens-là pour que construire de plus de logements, évidemment, parce qu'on a un minimum à construire vu notre démographie, vu l'état de notre parc immobilier, de nos parcs immobiliers sociaux. Il faut qu'on construise de nouveaux logements, haute qualité environnementale, qui consomment le moins d'énergie possible, qui sont bien isolés. Mais en plus de cela, il faut qu'on ait une vraie stratégie, une vraie réflexion sur le peuplement. Parce que aussi, c'est pour parquer les mêmes populations aux extérieurs des villes, au banc des lieux, dans les banlieues, dans les ghettos. On va reproduire la même chose pour avoir les mêmes résultats. C'est, je crois, ce que disait Albert Einstein pour des personnes qui sont pas très intelligentes.
Ergun Toparslan, autre motif d'inquiétude pour les Français, l'avenir de leurs enfants. Vous avez évoqué le dédoublement des classes dans les zones prioritaires. Mais quand vous voyez des étudiants faire la queue pour obtenir des colis alimentaires, des étudiants sans master alors qu'ils ont obtenu des résultats brillants, est-ce que la jeunesse doit être la grande cause du second quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Alors, du second, elle était également de la première, parce que c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir des jeunes qui font des colis. Une personne de gauche, même n'importe quelle personne, est affectée par ça, parce que la vraie arme qu'on peut avoir pour élever notre pays, pour répondre à la concurrence internationale, pour faire en sorte que demain nos nouvelles générations vivent mieux que les précédentes. présente, ça passe par l'école et par nos étudiants. Et l'état dans lequel ils se trouvent dans les universités est accablant, en particulier la crise sanitaire a été vraiment un facteur d'amplification de tout ça, et ça nous a frappé au visage. Et le gouvernement a agi avec le repas à l'euro au Crous, avec évidemment l'aspect des bourses qui ont été revues de façon à être un peu plus égalitaire. Derrière, est-ce suffisant ? Évidemment que non. Il y a eu également des engagements qui ont été faits, notamment pour l'apprentissage. Aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, on est à 500 000 jeunes apprentis, chose qui n'était pas arrivée. Moi, dans le début de mon engagement politique, on m'a donné le modèle allemand comme référence de l'apprentissage. Aujourd'hui, on est au même niveau. L'apprentissage, il y a deux avantages. C'est tout d'abord, pour l'entreprise, ça donne une expérience aux jeunes, et aux jeunes, ça nous permet d'avoir un revenu pendant la phase d'études. C'est pas négligeable, est-ce que ça règle tous les problèmes? Non, on parlait du problème de logement. Le problème du logement est évidemment amplifié dans les catégories jeunes. Le problème de la malnutrition est amplifié dans les catégories jeunes. Aujourd'hui, nos étudiants, même s'ils sont boursiers, ils sont obligés d'avoir des jobs complémentaires pour compléter et pouvoir étudier. Ce sont évidemment des sujets sur lesquels on veut faire des propositions. On souhaite améliorer la condition de vie de nos jeunes pour qu'ils puissent se concentrer dans leurs études et non pas être obligés de travailler pour essayer de d'aller décrocher un diplôme universitaire. Il y a le programme Un jeune, une solution qui a été également amené. On souhaite qu'il soit pérennisé. Et au-delà de tout ça, évidemment, c'est éviter que, comme ce qui a été fait depuis de nombreuses années, que la jeunesse soit une variable d'ajustement des politiques publiques.
Alors, les annonces d'Emmanuel Macron à Marseille ont été largement commentées. Est-ce que c'est une préfiguration de ce que pourrait être sa politique dans les 5 prochaines années? Je rappelle qu'il y a eu des investissements très importants sur la sécurité, sur l'école, mais aussi il y a la possibilité pour les directeurs d'école de recruter les enseignants. C'est une expérimentation. Ça n'avait jamais été fait jusqu'ici.
Effectivement, le président de la République a répondu par des mesures fortes à une situation assez particulière et grave du côté de Marseille. Maintenant, elle va permettre deux choses. C'est tout d'abord de pallier un déficit structurel à une situation assez catastrophique. Ça montre également qu'il est conscient, qu'il est au contact de nos élus locaux et des corps intermédiaires qui ont remonté cette situation-là. La réponse, évidemment, elle va nous permettre aussi de faire des, comme vous avez dit, des expérimentations en ce sens, à voir si ceux-ci vont être conclusifs ou non. Mais la situation de Marseille, évidemment, on ne souhaite pas qu'elle soit généralisée, mais elle peut nous permettre de trouver des solutions à d'autres problèmes qu'on retrouve un peu ailleurs. Encore une fois, l'exigence d'une présence continue, l'exigence du contact avec les élus locaux a été démontrée notamment avec l'action du président sur la situation particulière de Marseille.
Ergun Toparslan, Anne Hidalgo a lancé un appel aux personnalités de gauche qui ont rejoint Emmanuel Macron en 2016 ou 2017 à revenir vers la gauche et à soutenir sa candidature. Vous qui incarnez l'aile gauche de la majorité, quel regard portez-vous sur la campagne d'Anne Hidalgo ?
Un regard triste. Le monde d'Anne Hidalgo s'écroule. Cet appel, au-delà de l'impact personnel, on va dire, pour l'affection qu'on peut avoir pour les personnes qui l'entourent, montre encore une fois toutes les erreurs stratégiques qu'a fait le Parti Socialiste pour en arriver jusque-là. La pseudo-réussite des élections locales a camouflé peut-être cela pendant un certain temps, mais fondamentalement, le vrai travail idéologique, le vrai travail stratégique n'a pas été fait au sein du Parti Socialiste. Anne Hidalgo, pendant très longtemps, nous indique qu'elle n'est pas d'accord avec les Verts, que les Verts ont un problème avec la République, mais dans toutes les instances locales, que ce soit à Paris ou dans les autres villes, le PS gère avec les Verts, avec l'extrême-gauche. Donc nous, on a fait ce constat il y a bien longtemps. D'ailleurs, quand elle dit ça, en vrai, c'est pas que à nous particulièrement, mais c'est plus à l'électorat de centre-gauche. Ils ne se trouvent plus dans l'offre politique que fait nationalement le Parti Socialiste et qui votera Emmanuel Macron. On a tiré la sonnette d'alarme depuis un petit bout de temps en disant qu'il y avait un décalage à ce niveau-là. Aujourd'hui, maintenant qu'elle est candidate, elle essaye de récupérer ça. C'est un appel perdu parce que tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant dans la ville de Paris et dans l'opposé de ce qu'on nous porte comme valeur, ce qu'elle propose en tant que candidate à la présidentielle nous paraîtrait complètement farfelu. Le doublement du salaire des professeurs, qui représente un impact économique énorme, mais qui a été balancé comme ça, on se dit, ben, très bien, mais pourquoi ne pas l'avoir fait pour le personnel du périscolaire à Paris? Voilà, toutes ces choses qui font que la crédibilité de ces propositions nous met en difficulté. Après, il faut vraiment qu'à un moment donné, les gérants du Parti Socialiste comprennent que la fuite en avant derrière les écolos et les filles et l'extrême gauche amènera la fin de ce parti-là. Nous, on a été un peu en précurseur en identifiant avant. Dans le contre-appel, on leur dit venez, construisons un nouvel ordre social-démocrate sans courir derrière ce que proposent les écologistes et les insoumis pour aller reconvaincre un électorat et essayer de ne pas être en marge de la vie politique de notre pays, que ce soit localement ou nationalement. Parce que actuellement, localement, ils ont encore quelques endroits où ils existent, mais dans peu de temps, ça sera plus le cas. On se retrouvera avec des candidats du Parti Socialiste qui seront comme Anne Hidalgo au niveau national, c'est-à-dire aujourd'hui à 5, 6, mais très vite, je pense, malheureusement, à 2, 3, c'est-à-dire à pas grand-chose en intention de vote.
Dernière question, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la montée en puissance d'Éric Zemmour? Est-ce que c'est un adversaire qui sera finalement plus difficile à battre au second tour que Marine Le Pen?
L'inquiétude en tant que telle... Je pense qu'elle est plus derrière les idées que tout cela porte. Quand on connaît les positions d'Éric Zemmour, quand on connaît ses condamnations pour haine raciale, quand on connaît sa haine de la République, c'est ça qui est inquiétant, parce que fondamentalement, l'objectif d'Éric Zemmour, c'est d'aller mettre fin à la République. Son idéal, il n'est pas là. Son idéal de régime n'est pas là. Et quand on voit les intentions de vote qu'il représente, plus les intentions de vote qu'il représente le Rassemblement National Old School, c'est évidemment très inquiétant. Et on peut pas se résigner à ça. Donc, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que l'abstention soit le plus bas possible, qu'on aille reconvaincre un électorat et qu'on redonne confiance dans l'action politique. C'est pour ça que ça passe évidemment par une nouvelle offre politique, ça passe par une nouvelle incarnation qu'on essaie de faire également, et ça passe par des actions concrètes et une offre de centre-gauche qu'on essaie de porter. Il ne peut pas être derrière des candidatures qui sont en marge de l'action gouvernementale. C'est dans ce sens que l'enjeu de la présidentielle est très importante. On a vu que le dégagisme pouvait emporter beaucoup de monde. Et on n'est pas à l'abri d'un accident démocratique, donc effectivement c'est important. On a vu l'effet Trump, ce que ça a pu avoir aux États-Unis. Bon, Éric Zemmour n'est pas Trump, mais voilà, des candidatures qui sont dans ces ordres de grandeur, dans des présidentielles, sont évidemment à prendre en considération. Tout notre travail maintenant, c'est de décortiquer, démontrer en quoi Éric Zemmour ne peut absolument pas répondre aux problèmes de la France, en quoi ce qu'il propose et ce qu'il commente, maintenant c'est de l'ordre du commentaire, ce sont des idées nauséabondes, des idées dangereuses, et comment nous on va réussir à contrer les problématures, les fractures que connaissent nos sociétés, mais concrètement sans rentrer dans des fantasmes comme lui le fait lui, et dans une psychanalyse de comptoir qui lui permette un peu de se défouler de ses peurs, de ses anxiétés à travers les micros des plateaux télé.
Merci Ergun Toparslan. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Territoire de Progrès. Bonsoir.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.